Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur le récent sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis dimanche dernier à Abuja, ont annoncé un délai de rétraction de 6 mois pour les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger après la date de leur départ officiel de l'organisation fin janvier 2025 afin qu'ils puissent revenir sur leur décision. L'organisation ouest-africaine a par ailleurs décidé d'établir un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017 sous l'ex-président Yahya Jammeh. À suivre le reportage de Gilbert Tamba depuis Abuja au Nigeria et l'analyse de Soumaïla Hala, il est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de sécurité au Sahel. Nous parlerons ensuite d'un jeu vidéo récemment lancé au Burkina Faso. Ce jeu vise à sensibiliser le public sur le potentiel des moustiques génétiquement modifiés en tant qu'outil de lutte contre le paludisme. Le fait marquant de la semaine, c'est l'attaque dimanche du village de Ségué dans la région de Mopti au Mali. Au moins 7 personnes sont mortes et d'importants dégâts matériels enregistrés selon l'évêché de Mopti. Nous en parlerons avec Mamadou Bokoum, directeur de la radio Kaora au Mali. Nous parlerons enfin d'un sculpteur burkinabé, il s'appelle Siri Kiki. Il organise ici à Miami aux États-Unis jusqu'au 5 mars prochain une exposition placée sous le thème « Incarnation de la vivacité » dans laquelle il fait revivre les œuvres africaines qui sont loin du continent dans les musées en Europe. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bénéficier d'une période de grâce de 6 mois après leur sortie de la CEDEAO prévue en janvier. Le bloc régional va tenter de les persuader de rester dans ses rangs selon un communiqué final du sommet des chefs d'État qui s'est tenu dimanche dernier à Abuja. Le point avec Gilbert Tamba depuis Abuja.
Our sub-region has witnessed some positive.
Le sommet de la CEDEAO à Abuja a été une occasion pour aborder le retrait imminent des 3 pays un an après leur départ annoncé conjointement pour mettre fin à des décennies d'intégration régionale.
L'autorité a décidé de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période transitoire et de laisser les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays pendant la période de transition.
La CEDEAO n'a jusqu'à présent pas réussi à pousser le Mali, le Burkina Faso et le Niger à reconsidérer leur décision pour rester au sein de l'organe sous-régional. Le 29 janvier reste la date officielle du retrait, mais la date effective de leur départ a été prolongée jusqu'au 29 juillet, une période de transition pendant laquelle les médiateurs du bloc vont chercher à ramener les 3 pays dissidents au sein de la CEDEAO.
But I also want to appeal.
Je veux lancer un appel aux dirigeants de ces 3 pays. Oui, aujourd'hui, vous portez l'uniforme militaire de votre pays. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui va définir votre héritage. Et je crois qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux comme des gens qui élèvent leur pays. Ils devraient travailler avec d'autres partenaires dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous connectés. Nous avons tous besoin les uns des autres pour lutter contre l'insécurité et assurer l'émancipation économique.
Samedi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont réaffirmé leur décision de quitter la CEDEAO comme irréversible et ont déclaré conjointement que leur territoire resterait sans visa pour tous les citoyens de la CEDEAO après leur sortie.
Cela va affecter le commerce et la sécurité, c'est mon opinion, car je sais que ces 2 pays du Sahel jouent un rôle très important dans ces 2 aspects, donc nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Nous n'avons donc pas besoin d'être divisés en ce moment.
Cette décision permet de gagner du temps et répondre aux avertissements selon lesquels leur départ menace la liberté de circulation du bloc et son marché commun de 400 millions de personnes.
I think ECOWAS Je pense que la CEDEAO a réalisé qu'elle avait commis une erreur dans la manière qu'elle avait traité le problème. Ils voulaient y mettre un terme immédiatement en disant qu'ils voulaient envoyer un contingent militaire au Niger pour restaurer le président Bazoum qui a été renversé. Ce n'est pas ainsi que la CEDEAO devait agir. Habituellement, vous entamez des négociations avant que les chefs d'État ne prennent une décision.
Leur retrait, s'il est consommé, mettrait un terme à une période tumultueuse pour le Sahel où une série de coups d'État depuis 2020 a porté au pouvoir des autorités militaires qui ont favorisé des liens plus étroits avec la Russie aux dépens de la France, l'ancienne puissance coloniale. Les trois pays ont mis en place leur propre alliance des États du Sahel avec un alignement plus étroit dans le domaine de la défense. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Merci beaucoup Gilbert Tamba pour ce reportage. On retrouve immédiatement Gilbert qui nous attend là-bas au Nigeria. Bonsoir Gilbert. Gilbert Tamba. Gilbert Tamba donc qui a
bonsoir.
Réalisé. Voilà,
bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre Gilbert. Alors, quelle a été l'ambiance là-bas au sommet de la CEDEAO? On sait que certains dirigeants ont été très durs hein, par le passé avec les putschistes qui dirigent les pays de l'AES. Est-ce que la décision d'accorder un délai de 6 mois supplémentaires aux pays de l'AES pour qu'ils restent dans la CEDEAO a fait l'unanimité?
Pour commencer, je dirais qu'il y a eu d'abord des absents hein, à ce sommet d'Abuja. C'est le cas du Togo, l'Efor, Niassingbe. Pourtant, un des médiateurs de la CEDEAO avec le Sénégal, qui ont pour mission donc de ramener les trois pays au sein de la CEDEAO. Ensuite, le Béninois Patrice Talon n'était pas à Abuja également. Alors, les chefs d'État ont eu 2 sessions à huis clos, donc dimanche. Après leur arrivée, ils ont eu une première session avant la cérémonie d'ouverture. Et après, ils sont repartis pour une deuxième fois. Ce qui explique donc que les débats étaient à la hauteur de la situation en jeu. Alors, difficile de savoir parmi ceux qui étaient à Abuja, hein, ceux qui étaient contre ou ceux qui étaient pour la décision. Mais ce qui est clair, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a présenté le rapport de leur médiation au chef d'État. Et après ce que j'ai entendu, hein, dans le couloir, les deux pays auraient demandé à leurs homologues de continuer avec les négociations, même après la date officielle de la sortie des trois pays de la CEDEAO. Ce que je voudrais aussi ajouter est que les chefs d'État ont aussi travaillé sur les textes de la CEDEAO pour arriver à cette conclusion, pour donc acter non seulement le départ des trois pays de l'organisation sous-régionale, mais en considérant que leur départ ne favorise pas du tout la CEDEAO. Ils ont donc considéré cette période de grâce pour 6 mois, pour leur donner le temps de réfléchir encore.
Oui, alors Gilbert, vous qui vivez au Nigeria, quelles pourraient être les conséquences du retrait définitif de ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, de la CEDEAO? Est-ce que leur retrait aurait un impact sur l'économie du Nigeria et peut-être des populations de ce pays?
Les conséquences seront énormes, s'il faut le dire, en cas de divorce entre ces trois pays, la CEDEAO, parce qu'il faut le noter, de la viande aux oignons, certains produits alimentaires risquent de devenir plus chers. Les pays du Sahel sont bien connus pour produire du bétail et des légumes qui s'approvisionnent dans tout le reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc le mouvement des denrées alimentaires depuis les pays entraînerait les coûts accrus si les trois pays n'ont plus droit aux privilèges tarifaires actuellement garantis par la CEDEAO. Ce qu'il faut aussi ajouter, il y a ce projet gazoduc transsaharien qui est également un projet majeur menacé. Donc si leur divorce est consommé, le projet devrait commencer ses opérations en 2030, un projet conjoint entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Alors ce gazoduc de 4000 km serait conçu pour transporter jusqu'à 330 milliards de mètres cubes de gaz par an du Nigeria via le Niger jusqu'en Algérie. Donc tout cela pourrait être en jeu si cette la crise n'est pas résolue. Autre chose à ajouter, très important, outre son rôle dans la sécurité alimentaire du Niger, le commerce transfrontalier permet aux deux pays, je parle du Nigeria et le Niger, de tirer parti de leurs profits et de leurs avantages compétitifs respectifs en utilisant plus efficacement leurs ressources et en augmentant la richesse. Ensuite, le Nigeria et le Niger sont des voisins en Afrique de l'Ouest avec une culture, une religion et une langue similaires le long de leurs frontières. Depuis l'indépendance des deux pays, sont des voisins et allié fidèle du Nigeria. Le Nigeria donc était un voisin et un allié fidèle du Nigeria. Donc tout cela peut-être pourrait être affecté avec le départ des trois pays et surtout du principal voisin du Nigeria qui est le Niger.
Merci beaucoup Gilbert Tamba pour toutes ces précisions utiles. Gilbert Tamba que vous pouvez écouter sur VOA Afrique. Et pour une analyse, retrouvons à Bamako Soumaïlala, coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Bonsoir Soumaïlala.
Bonsoir Mouamadou.
Alors, pourquoi selon vous le retrait des pays de l'AES, de la CDAO, a été inscrit dans l'agenda récent du sommet d'Abuja? Selon vous, cette question est-elle devenue une urgence pour la CDAO?
Absolument, d'autant plus que c'est l'actualité du moment, le contexte l'a exigé, l'agenda de la CDAO l'a exigé, c'est vraiment l'actualité du moment et cette question devait être discutée avant la date butoir qui avait été impartie aux trois États en termes de départ de la CDAO, notamment fixée pour le 29 janvier prochain. Donc, il fallait impérativement discuter des voies et moyens, soit pour continuer, soit pour acter les départs. Et je pense que c'est les deux options qui ont été privilégiées.
Alors, quel est en réalité, Soumaïlala, l'intérêt de la CDAO de garder ces trois pays dans leur espace? Il y a certains qui pensent plutôt que ce sont ces trois pays qui ont besoin de la CDAO. Quel est votre avis là-dessus?
Allô?
Oui, Soumaïlala, je vous demandais quelle est en réalité.
Perdu un moment, oui.
Voilà, je vous demandais en réalité quel est l'intérêt de la CDAO de garder ces trois pays dans son espace. Il faut rappeler que beaucoup de gens pensent que ce sont plutôt ces trois pays qui ont besoin de la CDAO. Quel est votre avis?
Autant la CDAO a besoin de ces trois pays pour en tout cas asseoir une certaine solidarité au sein de l'organisation et pour impulser une certaine dynamique, autant ces trois pays profitent des retombées de leur appartenance à la CDAO. Donc je pense que c'est vice-versa. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, et le président de la commission de la CDAO l'a rappelé à juste titre, que la CDAO est sur un certain nombre de projets qui concerne non seulement l'ensemble des États membres de la CDAO, mais de façon spécifique sur certains projets, ces trois États qui sont dans la zone sahélienne. Le président de la commission a rappelé à juste titre qu'il y a des investissements en cours de plus de 500 millions de dollars dans ces trois pays de la part de la CDAO. Au-delà de cet aspect, la CDAO aujourd'hui travaille à actionner, à mettre en place, à redynamiser, on va dire, la force en attente pour véritablement être, en tout cas, une organisation qui soit en mesure de lutter efficacement contre la CDAO au sein de ses États membres. La CDAO travaille activement aujourd'hui à faire d'une monnaie commune une réalité. Donc, autant de chantiers qui sont engagés qui, si ces trois pays aujourd'hui partent, vont être impactés d'une manière ou d'une autre ou vont accuser un certain nombre de retards, et il y a réellement un risque de désintégration ou désagrégation de la CDAO par le départ de ces trois pays qui pourrait mettre véritablement à mal tout ce qui a été réalisé juste depuis la création de la CDAO à aujourd'hui en termes d'action forte, en termes d'intégration, en termes d'établissement et de liberté d'établissement et de liberté de circulation.
Justement, Soumaïlala, j'allais vous demander, les trois pays de la les trois pays de l'AES veulent quitter la CDAO, mais veulent continuer à jouir des privilèges, hein, notamment la libre circulation dans cet espace régional. Cela signifie quand même qu'il y a matière à négocier. Qu'est-ce qui pourrait mettre d'accord les deux blocs?
Absolument. Je pense que on peut à ce niveau dire que la médiation a quelque peu réussi en ce sens que la CDAO, à travers ses sommets, a décidé de donner une période de transition, un délai de grâce de 6 mois pour faire revenir à des meilleurs sentiments les trois États qui avait au cours d'un sommet des chefs d'État de la Confédération de l'AES, fait un communiqué qui allait dans le sens de la possibilité pour les populations des États membres de la CEDEAO de circuler librement au sein de l'espace AES. Donc, en cela, je peux dire que les portes ne sont pas fermées, les discussions vont continuer de plus belle. Et je suis convaincu qu'à un moment donné, en tout cas sur la période des 6 mois, les deux parties vont trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de questions, à défaut de pouvoir faire revenir les trois pays dans le giron de la CEDEAO.
Alors rapidement, Soumaïla, pour terminer, la CEDEAO a décidé d'établir un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie sous l'ère du président Yahya Jammeh. Qu'est-ce que cela vous inspire, rapidement?
Très rapidement, c'est une recommandation de la commission Vérité, Justice, Réparation qui avait été mise en place par le président Barrot et qui avait formulé une recommandation dans ce sens pour éventuellement juger les crimes commis sous la présidence du président Yahya Jammeh et qui était en quête d'une certaine transparence et d'une certaine impartialité et qui avait jugé qu'il fallait un tribunal international piloté soit par la CEDEAO, soit par l'Union africaine, et je pense que la CEDEAO aujourd'hui répond positivement à ces souhaits qui a été émis par les autorités gambiennes. Et ça, c'est une très bonne dynamique qui, quelque part, si elle est réussie, va en tout cas créer un précédent qui va véritablement pousser les chefs d'État à ne pas aller sur des terrains qui pourraient les amener à se faire juger par un tribunal mis en place par la CEDEAO.
Merci beaucoup, Soumaïla Lah, pour votre analyse. Quelques réactions sur le sujet, sur la page Facebook de VOA Afrique. Pour terminer, Haruna Traoré qui dit « Au lieu de s'occuper et solutionner les problèmes primordiaux, ce syndicat de chefs d'État de la CEDEAO fait une rétrospective des choses qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. Adams Da dit à quand le tribunal spécial pour les massacres de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, les massacres des manifestants contre Macky au Sénégal. Et puis Ouedraogo Eto dit les 6 mois donnés à l'AES sont prévus dans la charte de la CEDEAO. Un grand merci à tous ceux qui ont réagi sur le sujet dans nos différentes plateformes digitales. La suite, c'est dans quelques instants.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Parlons maintenant du paludisme. Le consortium de recherche à but non lucratif Target Malaria a récemment lancé au Burkina Faso un jeu vidéo gratuit pour sensibiliser le public sur le potentiel des moustiques génétiquement modifiés en tant qu'outil prometteur de lutte contre le paludisme. Cet outil de sensibilisation peut également être utilisé à des fins de formation dans des laboratoires qui travaillent sur la modification génétique des moustiques en Afrique. Les précisions avec Alexandrine Hollognon.
Le Burkina Faso fait partie des 11 pays africains où le fardeau du paludisme est le plus lourd, avec 8 139 000 cas estimés en 2023, selon le rapport mondial sur le paludisme 2024 de l'OMS. Target Malaria, dont l'objectif est de réduire la transmission du paludisme, a récemment publié une nouvelle étude de modélisation mathématique évaluant l'impact potentiel de la technologie de l'impulsion génétique sur l'incidence du paludisme en Afrique de l'Ouest. Pour expliquer le bien fondé de ces technologies, le consortium a lancé un jeu, Target Malaria, le jeu.
Eh bien, Target Malaria vise à développer des nouveaux outils en fait de lutte contre le paludisme en Afrique avec des technologies génétiques. Eh bien, on travaille sur la modification génétique du moustique Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'est assez difficile à expliquer au public, en fait, comment fonctionne la modification génétique. Et on reçoit beaucoup de questions sur comment ça se passe dans le laboratoire, comment fait-on cette modification. Et donc, en travaillant avec les scientifiques de nos insectariums et qui font eux-mêmes les modifications génétiques, ils nous ont décrit chaque élément et on s'est dit que ce serait en une façon parfaite, en utilisant une simulation avec un jeu vidéo, pour montrer comment le travail est fait par les scientifiques dans les laboratoires.
Développé en collaboration avec le développeur de jeux indépendant Michael Marston, le jeu fonctionne de manière optimale, même sur les systèmes à faible spécification, le rendant accessible dans les zones à faible connectivité, une caractéristique particulièrement importante dans le contexte burkinabé.
Donc pour l'instant, on a développé deux modules et ces modules-là couvrent deux aspects de la modification génétique. Le premier, c'est comment on va introduire en fait une solution d'ADN qui contient la modification génétique et qui va cibler un gène précis dans l'ADN du moustique. Et le deuxième module, c'est comment on trie des larves de moustiques qui sont certaines modifiées et certaines qui ne sont pas modifiées.
À la question de savoir si un jeu vidéo pourrait réellement influencer l'opinion publique sur une question aussi sérieuse comme la lutte contre le paludisme, Morgane Danielou se veut rassurante.
Je pense tout à fait parce que, en fait, avec le paludisme, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance de même du vecteur, le moustique lui-même. Donc, en général, on connaît très peu, on a du mal à distinguer aussi les différentes espèces parce qu'il y a beaucoup de moustiques qui sont porteurs de maladies vectorielles. On l'a vu récemment en Afrique l'année dernière, il y a eu des grosses épidémies de dengue. Mais par exemple, la dengue est transmise par un moustique qui s'appelle Aedes et qui n'a rien à voir avec le moustique Anopheles qui transmet le palu. Donc on pense que vraiment c'est très important de d'abord vraiment connaître le moustique lui-même pour ensuite connaître la maladie.
La communauté scientifique est confrontée à la résistance du paludisme au traitement existant avec l'apparition d'un moustique urbain venu d'Asie, l'Anopheles stephensi, à l'origine d'une recrudescence des cas de paludisme en Afrique de l'Est. Selon l'étude de Target Malaria, les technologies d'impulsion génétique pourraient réduire les populations de moustiques vecteurs du paludisme de 71% à 98%, ce qui entraînerait une diminution significative des cas de paludisme. Dans son dernier rapport, l'OMS appelle à une riposte plus rapide pour contrer cette maladie qui a fait 597 000 morts en 2023.
Merci Alexandrine Rollognon. À présent, le fait marquant de la semaine au Mali, au moins 7 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque menée dans le centre du pays. L'attaque terroriste du village de Ségué, dans la région de Mopti, a tué un parent d'un membre du clergé local et 6 autres hommes avec beaucoup de dégâts matériels, a indiqué l'évêché de Mopti dans un communiqué signé par son secrétaire, l'abbé Daniel Camille Togo. Pour en parler, retrouvons à Mopti Mamadou Bokoum, directeur de la radio Kaoral. Bonsoir Mamadou Bokoum.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de l'attaque? Que s'est-il exactement passé?
Effectivement, l'aube du 15 décembre dernier, le village de Ségué s'est réveillé avec des troubles et des coups de feu partout. Il s'agissait des groupes terroristes qui avaient quand même les hommes armée qui avait quand même fait irruption dans le village. Et selon le bilan officiel qu'on a obtenu, c'est 8 morts, mais les témoins locaux nous assurent qu'ils ont fait un décompte de 9 morts, plus beaucoup de blessés qui ont été admis et à Bankas et à l'hôpital Soumino Dolo de Mopti à Sévaré. Donc le matin, tout on fait irruption dans le village et ils ont calciné des maisons, ils ont brûlé un peu partout. Vraiment, l'atmosphère était vraiment terrible ce jour-là. Et selon les témoins qu'on a pu joindre, ils ont confirmé que de 6h à 8h, ils étaient dans le village. Donc, beaucoup de personnes également se sont retranchées dans les grottes pour se sauver la vie. Et les gens ont brûlé le village, laissant derrière eux vraiment beaucoup de dégâts, des maisons brûlées, des greniers brûlés également. Il y a eu des pertes en vies humaines, malheureusement.
Oui. Alors, on va souhaiter beaucoup de courage aux populations de Ségué. Alors, mais on imagine là-bas que c'est la tristesse, la désolation. Mais est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les activités des populations? Est-ce qu'il y a une mobilisation sur le terrain pour venir en aide aux personnes affectées et peut-être pour prévenir ce type d'attaque?
En tout cas, le village est calme. Les gens sont restés dans le village. Mais selon nos informations, il y a deux délégations des ressortissants du village qui se sont rendues dans le cercle de Bankas pour demander de l'aide aux autorités afin de pouvoir avoir un poste quand même de sécurité sur place pour les vraiment maintenir là-bas. D'après les gens de Ségué, le village était menacé, était sous alerte. Ça vaut une année. Ils cherchent à attaquer le village et les groupes d'autodéfense ont pu vraiment veiller sur le village jusqu'à cette date fatidique du 15. Malheureusement, ils ont eu un mode opératoire très, très bien réfléchi parce que selon ce que nous avons appris...
Un mode opératoire que vous avez rappelé il y a quelques instants. Merci beaucoup, Mamadou Bokoum. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio Kaoural à Mopti. Et maintenant, on va passer une note positive pour terminer cette édition de Focus Sahel. Je vous propose de faire la connaissance de Siriki Ki. C'est un sculpteur burkinabé qui expose actuellement à Miami, ici aux États-Unis, dans son exposition intitulée « Incarnation de la vivacité ». Il fait revivre les œuvres africaines qui sont loin du continent, dans les musées en Europe. Il en a parlé à Georges Attino. Regardez.
Avec une énergie débordante du haut de ses 71 ans, Siriki Ki donne vie à ses ancêtres à travers ses masques chargés d'histoire. Du Burkina Faso au Gabon, en passant par le Congo, l'artiste a minutieusement sélectionné des pièces emblématiques pour représenter la diversité du continent africain.
Alors j'ai choisi ces masques-là, des masques d'Afrique centrale, des masques d'Afrique de l'Ouest, des masques d'Afrique australe, tous les masques, j'ai fait en sorte qu'il y ait toutes les parties qui soient intéressées dans cette exposition. Je n'avais que 10 sculptures à faire, hélas. J'ai choisi seulement 10 masques. Il y a un masque par exemple, du Burkina, des masques du Gabon, du Congo. C'est tout. J'ai pris dans toute l'Afrique.
Au-delà de l'aspect esthétique, cette exposition révèle une dimension politique. Pour Siriki Ki, ces masques ne sont pas de simples objets d'art, mais de véritables symboles du pouvoir et de la spiritualité.
Les masques, les statues sont investies d'un pouvoir. Les ancêtres avaient le mot pour invoquer les pouvoirs occultes, on va dire occultes, si vous voulez. Les divinités là, sont là, nos divinités sont là. Quand on les implore, il y a la force qui rentre dans l'objet, dans le masque ou dans la statuette. Mais aujourd'hui, quand ces masques et les statuettes rentrent dans la main des profanes, des gars qui ne connaissent pas, ils ont des pratiques qui en sorte que les divinités la sortent. Les divinités ne peuvent pas vivre dans des endroits pas propres, pas purs. C'est ça l'Afrique. Il faut que l'endroit soit propre, pur, pour que la divinité puisse rester et accomplir son devoir.
Pour Siriki Ki, ces masques ne sont pas de simples objets d'art, mais de véritables symboles de pouvoir et de spiritualité. Il appelle ainsi à la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées en Europe.
Moi, je suis un militant pour ça, pour que les œuvres reviennent. Que les œuvres reviennent, qu'on construise des musées, les mettre dedans, c'est pas ça. Moi, je suis un militant pour que les œuvres reviennent, qu'elles les repartent à les bases où on les a fabriquées, et si on veut qu'on les resacralise. Parce que quand les masques sont partis dans les mains indignes, alors le pouvoir sort, le pouvoir s'en va. C'est désacralisé. Et moi, je voudrais que les œuvres là viennent, qu'on les resacralise. C'est le patrimoine de toute l'Afrique. On peut les sacraliser. Il y a des anciens qui sont encore là, qui savent comment faire. À partir d'incantations, de prières, on peut les mettre le pouvoir dedans. Alors moi, je dis que les masques sont partis. Il y a des masques qui sont partis par la force. Mais il y a aussi d'autres que nos frères ont vendus. Ça, ce n'est pas négligé non plus. Mais de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, c'est des trucs qui ont été volés à l'Afrique. On voudrait les voir. C'est tout.
Malgré les défis au Burkina Faso, Siriki Ki continue de s'investir dans la promotion de la sculpture africaine à travers le symposium de Laogo, un musée à ciel ouvert à quelques kilomètres de Ouagadougou.
le symposium continue. Avec ça, il y a beaucoup d'autres manifestations qui continuent. On ne va pas arrêter le symposium pour ça. Et on a fait un symposium, une édition de très belle facture cette année, la 14e édition du symposium, qui s'est tenue avec les gens qui sont venus d'ailleurs, les autres pays, et on a fait un très bon travail. Non, non, rien ne peut nous arrêter à ce niveau-là, en tout cas.
Avec incarnation de la vivacité, Siri Kiki sculpte un véritable message d'espoir et de résistance sur la place des œuvres d'art africains dans notre société.
Focus Sahel, Stop F1, merci d'avoir écouté et regardé.